Les plumes sur RCN, présentées par Mona.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Costa qui va nous présenter trois de ses romans sous le chêne de Velleda, 13 rue du Point du Jour et À l'ombre de Saint-Èvre, tous les trois publiés aux éditions du Panthéon. Bonjour Jean-François, bienvenue.
Bonjour Mona, ravi d'être avec vous.
Plaisir partagé. Alors, vous pouvez vous présenter, nous parler un petit peu de vous ?
Oui, on va aller assez vite parce qu'il y a quand même 78 années de vie là, à résumer en quelques mots. Je suis donc né d'une famille ouvrière de Nancy en 1947, c'était juste avant-hier. Une famille de trois enfants. J'ai suivi un cursus scolaire normal et classique pour finir par passer un diplôme d'éducateur spécialisé. Ensuite, j'ai été moi-même formateur de travailleurs sociaux et puis directeur d'établissement, à la fois établissement de santé, paramédicaux et recevant des enfants qui présentaient, et des adolescents qui présentaient des troubles du comportement et de la conduite. Ceci m'a amené au jour où j'ai pris ma retraite, en 2007 pour être clair, à tenir l'emploi, le rôle, la fonction, la responsabilité d'assesseur au tribunal pour enfants d'Épinal, puisque actuellement je suis installé dans les Vosges, et en même temps donc de remplir pour le tribunal des affaires familiales de la même juridiction, une fonction d'enquêteur social, fonction qui m'amène à me pencher dans le sein de familles qui vivent des situations difficiles sur le sort qui sera réservé à leurs enfants.
Mmh.
Voilà.
Et allez-y, allez-y.
Donc dans le temps qui me reste, tant que je ne consacre pas forcément aux sept enfants que la vie m'a donné, je prends le temps d'écrire des livres parce que ces mêmes enfants un jour m'ont dit « Papa, tu nous racontes toujours des tas de trucs, mais le jour où tu seras mort, qui est-ce qui va les raconter à nos enfants ? Alors tu devrais les écrire. » Donc j'ai attendu quand même une longue année avant de m'y mettre et depuis 2014-2015, je couche sur le papier non pas des romans, parce que je ne sais pas inventer, je suis nul en la matière, mais j'utilise mon expérience de vie, j'utilise les situations que j'ai traversées et j'emprunte et je vole beaucoup aux gens que j'ai pu croiser, rencontrer, voir autour de moi. Je leur vole un petit peu de leur vie pour en faire les acteurs de mes bouquins.
Mmh.
Voilà.
D'accord. Donc vous avez quand même déjà écrit 7 ouvrages.
Eh oui, je suis en train de peiner là sur le 8e parce que derrière il y a un 9e et un 10e qui sont en train de me titiller.
D'accord. Alors nous allons commencer avec Sous le chêne de Velleda. Alors pour mettre nos auditeurs en appétit, vous voulez bien nous lire l'avant-propos qui figure dans votre ouvrage ? S'il vous plaît.
Oui, alors celui-ci, si je ne me trompe, devait déjà être le 4e de la fratrie.
Oui.
Oui. Du haut de mes 10 ans, la plaine était une grande rivière que je ne pouvais franchir sans les remplir dans mes bottes de caoutchouc estampillées l'aigle. La fraîcheur du lac de Lamée se gagnait au prix d'une véritable escalade. Mes jeunes jambes se croyaient en haute montagne sur ce sentier de chèvres où les pierres se dérobaient sous les chaussures. Le sommet du Donon, nous le rejoignions depuis le col, après un arrêt au kiosque de celle que nous appelions tous Madame Velleda. Nous nous procurions auprès d'elle d'improbables galures en feutrine qui se déformaient sous la pluie et la sueur, couronnant nos fronts de marbrures psychédéliques. L'escalade vers le temple restait à chaque fois une conquête. Nous étions à chaque fois fiers d'avoir vaincu notre Annapurna, nous, les petits citadins de Nancy, pour qui les Vosges étaient déjà le bout du monde, peuplé de daroux insaisissables et de sautrés farceurs. Mes lecteurs pardonneront à ma mémoire d'enfant des toponymies approximatives, des cours d'eau absents des cartes d'hygiène ou un village disparu dont on retrouverait sûrement bien les pierres si l'on voulait se donner la peine de gratter quelques coins moussus. Ils partageront avec moi, je l'espère, les chaudes effluves forestières, les friselis de l'eau et des feuillus, les raies de soleil vibrants d'insectes et de poussière tombant des branches de noirs sapins aux croisées des chemins. Je les invite à aimer avec moi ces hommes et ces femmes qui, depuis les premiers temps, se sont intégrés dans cette région difficile et si attachante à la fois pour en tirer leur subsistance et aussi la faire fructifier. Ce qui aurait pu nous paraître rugosité dans leurs traits de caractère nous est arrivé aujourd'hui comme pudeur de sentiment. C'est la vertu de la montagne vosgienne, fabrique d'hommes et de femmes rudes, au cœur aussi grand que leur résineux.
Merci Jean-François. Alors pour nos auditeurs, il serait peut-être bon d'expliquer qui est Velleda.
Alors c'est vrai que pour moi, Velleda, pendant longtemps, c'était Madame Velleda, qui était la déjà très âgée dame qui siégeait dans son kiosque juste devant un grand hôtel-restaurant qui s'appelait l'Hôtel Velleda. Et voilà, je n'ai jamais cherché plus loin. Et puis un jour, au cours de mes études classiques littéraires, je suis retombé sur Velleda, qui s'écrivait un petit peu autrement que l'hôtel, et qui en fait était une prêtresse, une druidesse, entre guillemets, qui siégeait donc au col de Velleda, non pas sous un chêne, parce que les chênes ne poussent pas dans les sources du Rabodo, chacun sait que c'est un autre type de feuillu, mais bon, pour moi le chêne était plus noble que l'orme ou tout autre arbre. Et cette druidesse Velleda s'est trouvée un jour confrontée à une troupe de Romains qui arrivaient de chez eux tranquillement pour aller taper sur le cuir des Goths ou des Visigoths, ça je ne sais plus. Et ils lui ont demandé « Alors druidesse, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui sais tout, on va gagner ?» Et elle, en femme futée qu'elle était, leur animait « Bien sûr, allez-y, vous allez gagner ». Elle pensait que bien sûr, pas un seul ne reviendrait. Hélas, ils sont revenus. Après avoir été battus à plate couture, ils ont pris Velleda avec eux et ils l'ont emmenée à Rome où elle est morte 30 ans plus tard.
D'accord.
Voilà. Velleda, en fait, était là au col du Donon pour intercéder entre les hommes et les dieux, avec un petit dé, mais surtout les éléments, parce que ces hommes et ces femmes du temps très très jadis devaient faire leur vie envers et contre tout, y compris contre les éléments. Et Velleda était là pour intercéder, pour dire aux dieux « Attendez un peu avant de faire pleuvoir, ils n'ont pas fini leur moisson, ou laissez-leur encore un peu de temps, là ils sont tous dans les bois en train de couper le bois, les arbres, ne les mouillez pas, n'envoyez pas la foudre surtout. » La foudre brûlait des hectares de forêt avant qu'on ait eu le temps de bouger. Voilà, donc cette princesse druidesse Velleda, pour moi, est restée comme un personnage, un vrai personnage, qui est d'ailleurs quelque part encore dans la nature. Parce qu'après sa disparition, un homme, habile de ses doigts, a sorti d'un morceau de bois la statue de Velleda. Elle a déposé dans le creux d'un chêne. Et je ne sais plus à l'occasion de quelle guerre, à nouveau, quand des envahisseurs sont passés par là pour la protéger, le chêne s'est refermé.
Et après, il y a des mystères, mais on en parlera peut-être plus tard. Alors, vous nous faites vivre le quotidien des habitants d'un petit village de bûcherons situé sous le col du Donon en 1850. Hein, ça commence
oui,
en 1850.
Ça même, oui.
La vie était rude à cette époque. Hein.
Elle était rude et j'ai eu la chance de pouvoir... bon, parce que c'est vrai que je suis peut-être un grand bavard, mais j'aime écouter aussi. Et j'ai eu la chance de rencontrer un certain nombre de personnes, hommes et femmes, qui m'ont raconté leur enfance et également ce qu'ils avaient entendu raconté par leurs parents et leurs grands-parents sur ce qu'ils appelaient la vie d'autrefois. Enfin, eux, ils disaient pas autrefois, ils disaient dans le temps. Mmh. Et dans le temps, il s'en est passé des choses. Et je me suis dit aussi, bah, pourquoi moi, je garderai pour moi cet héritage. Il faut que tout le monde en profite. Mmh. Donc, voilà, j'ai essayé de me faire, c'est un grand mot, mais j'aime bien, un passeur de mémoire. Voilà.
Oui, c'est très joli. Oui, oui, oui. Alors, il y avait. La vie était donc rude, mais je disais plus particulièrement pour les schlitters.
Ah,
vous pouvez
oui.
nous décrire un peu la nature de ce métier qui a presque complètement disparu. Il existe juste pour le folklore maintenant.
Voilà, il n'existe que pour le folklore. Et c'est vrai que c'était. Alors, les bûcherons, pour descendre le bois depuis les hauts, c'est le nom qu'ils donnaient, eux, à leur montagne, les hauts, pour descendre le bois, créer une piste. Une piste qui était constituée donc de tronçons de bois séparés de 80 cm, 1 mètre, 50. Ça dépendait de l'angle de chute du terrain. Et là-dessus, il faisait glisser une sorte de traîneau qui était conduit et surtout freiné par un homme qui était assis à l'avant, mais qui avait dans le dos une tonne de bois. Et il est arrivé quelquefois que la schlitte passe sur le schlitter.
Oui.
Et mais ils avaient des mots pour ça, les schlitters. Ils disaient que la schlitte leur cassait le dos en descendant et les tuait en remontant. Parce que pour remonter la pente, ils mettaient la schlitte sur leur dos pour la remonter jusqu'en haut. Mmh. Au lieu de la coupe, sur le lieu de la coupe.
Heureusement, après, il y a eu un peu de progrès. Alors, vous avez développé toute une série de portraits de ces braves gens, durs au travail, mais extrêmement solidaires. Alors, c'est dans leur nature d'être solidaires ou c'est parce qu'ils vivent dans un village isolé ?
Alors, moi, je crois que c'est les deux. Ne s'arrêter qu'au fait de l'isolement en disant quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, j'aurai besoin de l'autre, et je compte sur lui, serait, à mon sens, réducteur.
Mm-hmm.
C'est des gens, qui avaient une ouverture de cœur et d'esprit suffisante pour intégrer dans leur vie, même si c'était sans décorum, sans marque extérieure apparente, ils intégraient la vie du voisin ou de la voisine. Une porte qui n'était pas ouverte le matin en même temps que la leur, comme d'habitude, un volet qui n'était pas fermé le soir en même temps que les leurs, comme d'habitude, ne les laissait pas indifférents. C'est qu'il devait se passer quelque chose. Il y avait peut-être matière à venir donner un coup de main ou à intervenir.
Mmh.
Et moi, j'en ai gardé comme souvenir de ce qu'ils m'ont raconté ces choses-là. Une image qui m'est chère, c'est celle de ma grand-mère, qui est donc ma grand-mère, hein, moi qui ai 78 ans bientôt. Vous voyez, ça remonte quand même. Mmh. Ma grand-mère, qui était une personne qu'on venait chercher dans le village où elle habitait, chaque fois qu'il y avait un gros besoin, une parturiente qui n'arrivait pas, voilà.
Oui.
Allez, on allait chercher la Cécile, un vieux qui griffait ses draps, qui n'arrivait pas à passer. On allait chercher la Cécile. Et pour d'autres choses, on allait chercher le Gustave parce qu'on s'était brûlé avec la poêle ou avec la graisse brûlante du rôti. On allait chercher le Gustave, il faisait passer le feu. Il y avait aussi une Marguerite que j'ai connue dans le village, et là j'y étais témoin, une Marguerite à qui j'ai emmené un jour une de mes petites cousine qui avait une rage de dents qu'elle ne pouvait plus supporter. Et ma grand-mère a dit, emmène-la voir chez la Marguerite, tu vois. Et la Marguerite, quand on est arrivé, elle était en train de vider le fumier de ses vaches. Elle a posé la fourche et sans autre cérémonie, elle a dit à ma cousine, ouvre la bouche. Elle lui a mis les doigts dans la bouche. Non, mais 3 minutes après, la cousine, elle avait plus de rage dedans. Mmh. Et voilà, c'est un héritage, hein, un héritage aujourd'hui bah, peut-être oublié, perdu, que moi, j'ai voulu rapporter, consigner dans ce livre mmh. pour qu'un jour, on se souvienne de nos arrière-grands-parents, de ce qu'ils savaient faire, mais surtout du comment ils savaient vivre.
Mmh. Oui, alors vous parlez, les deux personnages principaux, c'est Charlot et Odette, bien sûr, hein, qui sont des personnages très présents
oui.
et très, bah, très solidaires. Ils s'occupent beaucoup des gens, ils ont beaucoup de bon sens, ils ont oui. beaucoup d'empathie pour les
oui.
gens.
Oui,
c'est ça.
Ils ont beaucoup d'empathie, oui, c'est ce que je disais il y a un instant. La réaction première, d'ailleurs, du monsieur, quand il voit donc, ce jeune homme qui arrive au col à la nuit tombante, et lui dire, mais attends, tu vas quand même pas redescendre maintenant. C'est pas possible, rentre chez nous, tu vas manger avec nous, tu dors chez nous, tu repartiras demain.
Mmh.
Parce que, voilà, ça tombe sous le sens ou sous l'évidence à ces gens qui sont confrontés à la dureté de la vie, il faut dire les choses comme
bien
elles sont,
sûr.
À la dureté de la vie, ça tombe sous le sens qu'ils prennent aussi sous leur aide, sous leur bras, sous leur affection, quiconque passe, connu ou inconnu.
Alors, les Hauts-de-Vosges, réputés pour ses larges étendues de forêt, ses paysages à couper le souffle et ses lacs, est aussi une région connue pour ses légendes où le fantastique côtoie le merveilleux. C'est toujours une terre de légendes et de mystères ?
Oh bah oui, oui, oui. On ne traverse pas les Vosges sans aller un jour ou l'autre à la chasse au Darou,
oui.
Sans se faire embêter par un sautré. Alors le Darou, il y a beaucoup de gens le connaissent,
oui.
mais pour mémoire, c'est quand même cet animal mythique qui tourne toujours dans le même sens, hein, dans la montagne, parce qu'il a deux pattes d'un côté qui sont plus longues que les deux pattes de l'autre côté. Donc s'il tournait dans l'autre sens, bien évidemment, il serait en bas avant même d'y penser. Mais les plus sympathiques, à mon sens, c'est les sautrés, quand même.
Bien sûr.
Les sautrés, d'ailleurs, surtout connus des dames, plutôt que des messieurs. Parce que quand un bûcheron laboureur, parce qu'ils étaient les deux, un bûcheron et laboureur, rentrait chez lui le soir, après une dure journée dans la montagne, et que le repas n'était pas prêt, que visiblement le coup de balai n'avait pas été donné dans la cuisine ou que la pierre à eau était encombrée. Il disait « Mais qu'est-ce que t'as fichu ? Regarde-moi ça, dans quoi je rentre ?» Et la dame disait « Mais mon mari, mais tout était net il y a encore 5 minutes, mais c'est le sautré qui est venu et qui m'a tout mis en l'air.
»
Voilà, et le mari jamais ne se serait permis de mettre en doute les propos de sa femme. Il ne fallait pas se moquer des sautrés.
Ah oui, bien sûr. Et il y avait aussi notamment des fées. Alors nous revenons après les fées d'Yves Duteil.
Tu ne pouvais jamais dormir sans que j'invente pour ton plaisir des histoires de magiciens qui font tout avec rien. Et j'inventais pour que tu dormes dans la chambre les soirs de pluie des crocodiles en haut de forme et des grenouilles en queue de pie et des fées à n'en plus finir. Et des fées à n'en plus finir. Il y avait la fée aux yeux mauves que l'on regarde et qui se sauve. Et la fée des vents de la nuit que l'on appelle mais qui s'enfuit. Et puis la fée dans la lagune qui s'amuse à couper la lune en milliers de petits morceaux et qui les fait danser sur l'eau. Et quant à la fée Carabosse, elle t'emportait dans son carrosse et tu fouettais les 100 chevaux jusqu'à la mer au grand galop. C'est alors que tu t'endormais, moi doucement je m'en allais bercer mon cœur de ton sourire plein de rêves et de souvenirs et de fées à n'en plus finir. et de fées, un an plus finir. Puis un jour, tu as dû grandir, toutes les fées ont dû partir. Avec elles, les magiciens qui font tout, avec rien. Et depuis, pour que je m'endorme dans la chambre les soirs de pluie, quand les nuits sont trop monotones, je repense à nos jours enfuis. Et les fées, un an plus finir, se rappelle à mon souvenir. Il y avait la fée aux yeux mauves que l'on regarde et qui se sauve, et la fée des vents de la nuit que l'on appelle mais qui s'enfuit, et puis la fée dans la lagune qui s'amuse à couper la lune en milliers de petits morceaux et qui les fait danser sur l'eau. Et quant à la fée Carabosse, elle est partie dans son carrosse, elle a fouetté les 100 chevaux jusqu'à la mer au grand galop. Les enfants, c'est fait pour grandir, pour s'en aller vers l'avenir en laissant derrière eux des rires plein de rêves et de souvenirs. Et des fées à n'en plus finir, et des fées à n'en plus finir.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Jean-François Costa, venu nous présenter trois de ses romans, Sous le chêne de Véleda, 13 rue du Point du Jour et À l'ombre de Saint-Èvre, tous les trois publiés aux éditions du Panthéon. Alors Jean-François, l'action de votre roman 13 rue du Point du Jour se situe en 1944 à Aubecourt-sur-Seille, un village près de Nomni, où vit notamment un descendant de Charles et d'Odette dont nous parlions précédemment. Il s'agit d'Eugène Toussaint, qui a épousé Cécile en 1920 et qui sont tous les deux vos grands-parents maternels. Alors votre roman raconte l'histoire réelle de vos ascendants? Une partie?
Oui, c'est un tableau dans leur vie qui est constitué d'une grande richesse de tableaux différents. Mmh. J'ai dit tout à l'heure, ma grand-mère était quand même un personnage très particulier dans ce village, mais mon grand-père aussi, à sa manière. Ce sont les deux sont quand même des éléments importants qui m'ont permis de construire ma vie. Mes grands-parents étaient des gens aussi, inclus dans le village, dans le sens de qu'on donne aujourd'hui au mot inclusion, où on fait rentrer un peu de force n'importe qui ou dans n'importe quoi. Mm-hmm. On comptait sur eux, comme eux-mêmes d'ailleurs comptaient sur d'autres. Mmh. Membre du village. Vous parliez tout à l'heure, enfin, vous m'interrogiez sur la solidarité, mais oui, je crois que là, ça n'était pas un mot, c'était un acte de tous les jours.
Oui, c'est vrai. Mais c'est peut-être aussi plus facile d'être solidaire quand on connaît les gens, quand c'est dans un milieu un peu petit. Dans les grandes villes, c'est un peu plus compliqué.
Dans une grande ville, il y a des quartiers,
oui,
il y a des immeubles.
Oui.
Il y a des points de rencontre qui peuvent être tout simplement les commerces, éventuellement les lieux de culte. Mm-hmm. Moi, je n'ai pas envie de faire de différence entre le village et la ville. Non, on ne se perd pas forcément en ville.
Mm-hmm. C'est vrai. Alors, vous écrivez page 24, mais si nul ne naît méchant, il est dans la nature humaine de céder à des faiblesses, oui, dont le préjudice à autrui peut aller au-delà du but qui était visé. Et donc, pour éviter de petits ennuis, certains n'hésitent pas à dénoncer les autres. Rappelons qu'on est en 1944.
Hélas, dans ce livre, hein. Tout à fait, oui. Et ça s'est effectivement passé aussi dans ce village, mais d'une manière, comment je dirais, peut-être plus basse, en termes de bassesse. Certains ont profité pour augmenter leur richesse, oui, au détriment des autres. Mmh. Hein, puisque là, l'événement quand même capital dans ce village a été sa déportation.
Oui, mais je ne connaissais pas cet épisode.
Ah, voilà.
Oui, oui, oui.
Mais d'autres l'ont vécu, hein, que dans ce village. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les alliés, les Canadiens, entre autres, arrivaient sur Metz. Alors que du côté de Strasbourg arrivait, après le serment de Koufra, de Tassigny arrivait avec tous ses soldats. Et là, les Allemands étaient installés à Beaucourt-sur-Seille, tout bêtement, parce qu'il y avait un pont sur la Seille. Et en temps de guerre, un pont, c'est quand même un élément important, mm-hmm, pour les mouvements de troupes. Donc, ils se sont trouvés à ce moment-là en grande difficulté, coincés entre deux fronts qui se rapprochaient et entre la résistance sur place. Résistance dans laquelle œuvrait aussi mon grand-père, d'ailleurs. Il n'y avait qu'une, on trouvait qu'une solution, c'était de réunir tous les villageois devant l'église, bon, tous les villageois, 170 personnes, hein, en leur disant, vous avez une heure pour faire vos bagages. Et une heure après, ils étaient sur la route qui les emmenait à Morhange, à 40 km de là, itinéraire qu'ils ont parcouru en pratiquement 3 jours.
Mmh. À pied, bien sûr.
Et donc, certains ont réussi, après le rassemblement, à ne pas rejoindre le groupe qui partait encadré de soldats allemands. Ils sont restés sur place, et ça, tout le monde s'en est rendu compte au retour, quelques mois après, en voyant certaines maisons dont les portes avaient été un peu forcées, des armoires dont les tiroirs étaient sortis un peu intempestivement. Mmh. Voilà. C'est vrai qu'et puis d'autres qui ne reconnaissaient pas complètement leur champ, parce que les bornes et le bornage en général avaient quelque peu bougé pendant ces 3 ou 4 mois, et pas forcément par la suite d'intempéries.
Mmh. Alors quand ils sont déportés là, vers Morhange, ils sont parqués dans un camp, ça va durer un moment.
Oui, dans et, une caserne.
Oui. Et c'est d'autant plus, je pense que c'était très très angoissant, surtout qu'on commençait à parler des camps qui existaient en Allemagne.
Absolument, hein, absolument. Mais je veux dire, quelque part, ils n'ont jamais perdu espoir. Mmh. Ils ont reconstitué à l'intérieur de cette caserne où ils étaient quand même les uns sur les autres, il faut dire les choses, à 3 ou 4 par paillasse. La caserne, en fait, aurait pu être ou pourrait être comparée à ce qu'étaient ces fameux camps qu'on a découvert quelques temps après. Mais toujours la solidarité, là, s'exprimait au maximum. On protégeait les enfants, surtout. Les enfants devenaient les enfants de tout le monde.
Oui.
Les vieux devenaient les vieux de tout le monde aussi.
Oui.
D'ailleurs, ils se sont donné du mal, ces braves gens, pour en ramener un en particulier, qui n'était plus capable de tenir sur ses jambes. Et ils lui ont improvisé un brancard pour le ramener. Oui, c'était... C'est peut-être aussi pour ça qu'aucun d'entre eux n'est mort pendant ces trois mois et demi où ils sont restés prisonniers, parce que chacun soutenait les autres et les autres soutenaient chacun.
Mmh. Alors pour écrire ces deux ouvrages, vous aviez des documents écrits ou c'est une histoire de famille qui se raconte de bouche à oreille ?
Alors c'est une histoire qui se raconte, qui se racontait, encore que tout le monde ne la racontait pas pareil.
Oui, bah, j'imagine bien.
J'ai une grand-tante qui a fait partie aussi de ce déménagement, qui elle le racontait avec beaucoup d'humour. Je veux dire, moi, le premier témoignage qu'elle m'a confié un jour était cette chasse que menaient les femmes, surtout, contre les poux. Oui. Dont certains n'hésitaient pas à trouver refuge dans leur nombril. Et elle nous racontait ça et c'était des éclats de rire à n'en plus finir parce que je pense que pour elle, c'était aussi une manière d'occulter le côté nauséeux de l'histoire. Elle n'en avait gardé et n'en gardait en transmission que le côté humoristique, quoi.
Mmh. Donc la guerre est finie, donc on va nous passer avec un petit vent de liberté, avec Freedom de Pharrell Williams. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see, who cares what they know. Your first name is free, last name is dumb, but you still believe in what.
where we're from. Man's red flower. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. Dust to sun. Atoms in the air. Organisms in the sea. Sun and yes, man. Are made of the same things.
Freedom! Freedom! Freedom!
Freedom. 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 Freedom.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Jean-François Costa, venu vous présenter trois de ses ouvrages sous le chêne de Velléda, 13 rue du Point du Jour et à l'ombre de Saint-Èvre, tous les trois publiés aux éditions du Panthéon. Alors parlons maintenant de votre petit dernier, à l'ombre de Saint-Èvre, publié en 2024. L'histoire se passe en 1970 à Nancy, avec toute une galerie de personnages qui vivent dans le quartier Saint-Èvre, et avec une toile de fond, l'ombre de Charles le Téméraire. Vous voulez bien nous lire ce chapitre qui retrace sa fin tragique, s'il vous plaît ?
Le soleil qui se couche derrière lui projette l'ombre du cavalier sur cette cuvette silencieuse où les maisons se préparent pour la nuit. Oubliant la fatigue de la chevauchée, Charles, quatrième duc de la maison de Valois-Bourgogne, se redresse. Debout sur ses étriers, il s'empare mentalement de cette bourgade, frileusement enserrée dans son enceinte et couverte de ces fumées qu'aucun vent du soir ne vient chasser. Son regard balaye la campagne aux alentours et s'arrête un instant sur la surface glauque de l'étang Saint-Jean, ourlée par la neige généreusement tombée ces derniers jours. Il n'y a pas si longtemps, ce territoire était sien, mais appuyé par le roi Louis XI, René, le jeune duc de Lorraine, le lui a dérobé. À cette évocation, le visage de Charles se plisse en un rictus amer. Il vient d'essuyer deux défaites cinglantes devant Granson et devant Morat, mis en déroute par les confédérés suisses qui ont taillé en pièces une grande partie de ses troupes. Il sait qu'ici, il va jouer son va-tout. Déchirant le silence, le hurlement des loups les précède dans leur descente du plateau pelé qui fait face aux cavaliers. Ils recherchent les rares proies que la nuit tombante n'aurait pas encore terré dans leur refuge. Sur son destrier, aux côtés de Charles, le sieur d'Harcourt frissonne, effet de la froidure ou sombre pressentiment. D'un geste machinal, il resserre sur sa poitrine la fourrure d'ours brun qui couvre ses épaules. Cela fait des années qu'il sert le bourguignon dans son ambition de constituer un grand royaume rhénan, gérant pour lui une fortune qu'il a vue fondre au cours de ces dernières années. Imitant la volte que vient de faire Charles de Valois, dit le Hardi, Il met les sabots de son cheval dans les empreintes de celui de son maître et, comme pour se rassurer, passe la main sur les fontes rebondies de sa selle, d'où les chaos de la chevauchée tirent parfois d'étranges sonorités métalliques. Il a en effet la charge de conserver sous la main quelques valeurs en florins du Rhin, ainsi qu'en bijoux et vaisselle d'or, qui seraient, si nécessaire, facilement monnayables. Les mercenaires italiens ne se battront que s'ils sont payés. Échaudés par les derniers retards qui ont affecté le versement de leurs soldes, ils ne se laissent plus recruter sur de simples promesses et ne se lancent au combat que bourse et aumônière pleine. Comme à son habitude maintenant et avant chaque bataille, le hardi dit aussi le travaillant, et que l'on nommera beaucoup plus tard le téméraire, a pris le soin de s'arrêter dans un endroit discret pour y cacher le reste de sa fortune avant de guerroyer. Elle ne le quitte plus lorsqu'il se déplace, persuadée est-il qu'elle se trouve alors en plus grande sécurité. Le sieur d'Harcourt, de son état grand argentier de Charles, ne partage pas toujours ce point de vue, mais il doit reconnaître aujourd'hui le bien fondé du choix de son maître. Personne n'ira chercher le trésor là où ils viennent de le cacher.
Merci. Alors après ce petit détour historique qui n'est pas anodin, revenons au XXe siècle avec Jean-Marc. Jean-Marc est éducateur spécialisé et vient d'être nommé à Nancy dans le quartier Saint-Èvre.
Oui.
À cette époque, le quartier n'était pas encore rénové. Ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on voit maintenant.
Non. Le quartier Saint-Èvre, c'était surtout et avant tout la basilique, son parvis, et puis quelques rues dont on connaît quand même toujours le nom. La rue du Haut-Bourgeois, la rue du Mort qui trompe, voilà, c'était ces rues-là qui faisaient aussi la réputation d'un quartier où il faisait chaud la nuit.
Oui, c'est ça. Alors, nous faisons connaissance avec Marie-Louise, qui n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie.
Non, beaucoup, effectivement, n'ont pas eu de chance dans la vie. Elle a connu une jeunesse un peu difficile à la campagne. Et puis, à sa majorité, elle a eu la malchance aussi de rencontrer un jeune homme grand, beau et fort, mais qui rentrait de guerre d'Indochine. Et qui emportait les séquelles sous forme d'un caractère qui n'était pas forcément tous les jours simple à vivre et qui l'a un jour conduit d'ailleurs à se supprimer bêtement en se pendant avec sa cravate à la crémone d'une fenêtre. Il fallait le faire.
Oui, c'est sûr.
Donc la pauvre, oui, aujourd'hui... Enfin, à l'époque, mère de deux enfants, elle cherche un travail qu'elle va finir par trouver auprès d'un bistrotier du quartier Saint-Èvre, brave homme par ailleurs,
oui.
Voilà, qui va lui donner une seconde chance.
C'est vrai. Alors, il y a toute une faune qui gravite autour du bar de la rue du Mort qui trompe. Prostituée, souteneur, petite frappe, fournisseur de faux papiers. Vous avez forcé le trait
ou... Ah, pas du tout.
Pas du tout.
Ah, pas du tout. Je dois dire que même, bon, quelque part, j'ai prêté quelques-uns de mes actes, bons ou moins bons, à Jean-Marc, le héros de l'histoire. Mm-hmm. Non, le trait n'est pas forcé, pas du tout. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, justement, en lisant, en regardant un petit peu ces personnages, il pourrait y avoir un peu regret aujourd'hui de leur disparition, ou en tout cas regret de la disparition de leur mode de vie en termes de moralité. Parce que bien que petite frappe, bien que passant quelques mois par an à l'ombre sous les murs de Charles III, Je veux dire, ce n'était pas forcément des mauvaises gens. Moi, je me souviens, comme éducateur dans ce quartier pendant quand même assez longtemps, qu'entre 4h30 et 6h30 le soir, il y avait très peu d'enfants dans les rues. Hein. Mmh. Ils étaient tous à faire leurs devoirs. Et la mère, pour prostituée qui soit et qui allait prendre son boulot quelques heures après, ne les aurait pas laissés partir sans qu'ils aient récité leurs leçons et montré un devoir terminé. Mmh. Il n'y avait pas non plus d'adolescents qui étaient là à la recherche de la voiture à forcer ou de je ne sais quelle autre bêtise. Un gamin de cet âge-là, un soir, me quittant, moi et mon collègue, puisqu'on travaillait souvent à deux, me dit « Bon, allez, salut, hein, et à demain !» Le père, qui était juste à proximité, lui a pas laissé le temps de finir la phrase. Il lui a mis une paire de baffes retentissantes en disant « Eh, c'est pas la politesse que je t'ai appris, ça. Alors tu dis au revoir, monsieur, et tu t'en vas. » Voilà, c'était peut-être un peu rude, un peu brutal, mais il y avait, je n'ai pas peur de le dire, dans cette population du quartier Saint-Èvre, un code de l'honneur. Mmh. Un code d'honneur.
Oui, c'est vrai. Il y avait aussi Marcel, un souteneur pas très malin.
Ben oui, il y a des gens comme ça,
oui, c'est ça,
qui n'ont pas été gâtés par la nature. Et Marcel, oui, eh bien, il n'est pas méchant, mais oui, comme vous dites, il n'est pas très malin. Heureusement, lui, la vie lui a laissé le temps de tout essayer, y compris le passage en geôle, hein, puisqu'il oui. va faire de la prison aussi. Bon, non, pour une petite bêtise, mais il fera de la prison. Mais la vie va lui permettre aussi de retrouver une sorte de droit chemin beaucoup plus tard, quand, après s'être évadé, d'une façon d'ailleurs assez rocambolesque, il va se retrouver en pleine campagne lorraine et rencontrer, là aussi, un accueil dans une ferme où on ne va pas lui demander ses papiers, ni d'où il vient, ni pourquoi il est là, où on va lui offrir du travail, un grabat, un repas, deux repas, trois repas, et puis comme il va montrer de la bonne volonté, on va l'embaucher, et bah, il n'en sortira plus, puisqu'il finira par épouser la fille de la maison.
Mmh.
Mais là aussi,
une belle rédemption.
C'est une belle rédemption, mais je crois que tout le monde dans la vie a droit à sa deuxième chance.
Oui, bien sûr. Mmh. Alors, comme on parlait de trésor, le trésor caché va mettre en appétit plusieurs de vos personnages, hein, bien sûr.
Bien sûr, mais je crois qu'il y en a encore qui sont à la recherche
c'est
du trésor. Ah oui. Moi, j'ai eu la chance, l'occasion, enfin, peu importe, de travailler donc dans ce secteur où nous trouvons, là, du parc de Haye. Mmh. Et dans le secteur du parc de Haye, pas très loin, il y a un endroit qui s'appelle l'Ermitage.
Oui.
Voilà. Il est probable que le téméraire soit passé par ici et caché tout ou partie, en tout cas le sieur d'Harcourt est caché tout ou partie de ce trésor dans le secteur de l'Ermitage. Peut-être, on n'en sait rien, mais c'est possible. En tout cas, il faut se rappeler que le lac Saint-Jean n'est pas si loin.
Bien sûr.
Le lac Saint-Jean, c'est la place de la Croix de Bourgogne aujourd'hui. Voilà. Et moi, je crois qu'il y a encore des gens qui cherchent aujourd'hui le trésor du téméraire. Et c'est bien. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer, et je ne suis pas le seul, hein, on est beaucoup. Moi, j'ai quitté Nancy pour les Vosges, j'avais 42, 43 ans. J'ai eu l'occasion de rencontrer dans les rues j'ai pas envie de dire un vagabond, parce que c'était pas le
oui,
mot n'est pas juste,
oui.
mais un personnage qui se promenait avec son caddie et un tas de trucs dedans, et qui était un grand philosophe,
oui.
un ancien clerc de notaire, un ancien professeur, féru de langues anciennes. Il parlait le grec et le latin beaucoup mieux que moi, je ne parle le français. Et il avait coutume à nous dire, quand j'étais étudiant, j'ai rencontré à ce moment-là, puis d'autres fois après aussi, il avait coutume de nous dire qu'il ne fallait pas avoir peur de chercher le trésor. Alors, Il parlait pas forcément du trésor du téméraire, mais on ne devait pas avoir peur de chercher ce trésor qu'un jour chacun de nous trouverait au cours de sa vie. Et c'est un conseil que j'ai essayé, moi en tout cas, de mettre en œuvre.
Mmh. Vous lui rendez un vibrant hommage. Vous l'appelez Diogène dans votre roman. Et en fait, pour ceux qui douteraient encore, c'est bien de Paulus dont on parle.
C'est bien de Paulus dont on parle. Et c'est avec lui, effectivement, que j'ai voulu faire l'épilogue de ce bouquin. Mmh. Oui, oui. Mais ça aussi, ça fait partie, je dirais, des joyaux. Mmh. D'une vie, de rencontrer des gens comme lui.
Oui. Bon, il fallait quand même se boucher un petit peu le nez, mais c'est vrai qu'il était très très intéressant. Il fallait passer ce petit obstacle, disons.
Oui, bah, il aurait pu lui-même passer au-dessus, puisque s'il avait voulu, il aurait pu dormir chaque nuit de l'année chez quelqu'un de différent. Il était invité et accueilli partout. Mmh. Mais vous savez, il vaut peut-être mieux l'odeur nauséabonde d'un vêtement non lavé depuis longtemps que l'odeur nauséabonde de certains récits ou de certains prêches, entre guillemets, ou discours que l'on entend aujourd'hui.
C'est vrai. Alors, vous écrivez aussi, page 92, « La violence peut être l'expression du manque de mots à mettre sur ses sentiments. »
Ah, ça, j'y crois. Oui, vraiment. J'y crois vraiment. Quand on a les moyens de dire les choses, on peut dire à quelqu'un « Bon, écoute, là, tu m'embêtes, tu viens empiéter dans mon espace personnel, tu t'occupes de mes affaires alors que je ne te l'ai pas demandé, d'une manière ou d'une autre, tu es en train de gâcher ma vie. » On peut lui expliquer les choses quand on a les mots pour le dire. Mmh. Mais je crois, je suis sûr, je suis persuadé qu'un certain nombre de personnes n'ont pas ces mots. C'est pas de leur faute, forcément, parce qu'on ne leur a pas appris à manier les mots. Les mots, c'est comme un outil. Hein. Moi, j'ai un père qui bricolait beaucoup. Il m'a appris à me servir d'un marteau, d'un tournevis, d'une pince. Et on ne se sert pas d'un couteau pour ouvrir une boîte de conserve. Mmh. Il y a des outils pour... Et les mots sont aussi des outils. Et on peut faire beaucoup de bien et beaucoup de mal avec les mots.
Bien sûr.
Voilà. Et je crois que quelqu'un qui n'a pas les mots, bah, il utilise le support ou l'outil qu'il a à sa disposition. Hélas, pour certains, bah, c'est la violence. Mmh. C'est la violence.
Oui, oui. Quelqu'un
me dit, vous me dites que je suis yo, que je ne sais pas quoi, ça ne me fait pas plaisir. Je peux vous répondre sur le même ton. Prouvez-moi votre intelligence et puis on parlera de mon idiotie. Non, mais et on peut avancer. Mais si je n'ai pas les mots, vous me dites espèce d'idiot, je vous mets une baffe. non, voilà. C'est,
oui, oui.
Je crois que c'est un peu comme ça que les choses se passent. Et c'est dommage. Je crois qu'il faut effectivement essayer. Alors, ce qui m'inquiète aussi beaucoup aujourd'hui, eh bien, c'est de voir qu'à la place des mots, on utilise des TKT. Hein,
oui.
Voilà. Mmh. Ça m'embête un peu. Quoi.
Oui.
Je me dis, mes petits-enfants, ils vont parler comme ça. Je ne les comprendrai plus.
Oui, c'est vrai, c'est un peu triste. Hein. Alors, comment vous écrivez? Est-ce que vous avez des rites? Vous avez des moments propices pour l'écriture?
Ah, je n'ai pas de rites, je n'ai pas de moments propices. Je ne suis pas un écrivain, je suis qu'un auteur. Et je revendique le fait d'être auteur et la responsabilité de ce que j'écris. Mais je ne suis pas un écrivain dans le sens où je ne me lève pas le matin en me disant « Bon, je m'installe à mon bureau et je vais écrire. » Il m'est arrivé combien de fois, au moment de l'endormissement, d'avoir une idée qui me traverse la tête, une image, une situation. Et vite, je me relève pour le noter, parce que le lendemain, bien sûr, je l'aurais oublié. Le 13 rue du Point du Jour, qui est l'adresse réelle de mes grands-parents à ce moment-là, il m'est venu un matin où j'étais vraiment mal dans mon... J'étais pas du tout dans mon assiette. Je me lève et je me demandais si j'allais me recoucher ou si j'allais continuer, mais continuer à quoi faire? J'étais à côté de mes pompes complètement. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que ma grand-mère était assise à côté de moi au bord du lit. Et elle me racontait pour la 10e fois cette histoire que j'avais déjà entendue de sa bouche et de la bouche d'autres. Et donc là, j'ai été l'écrire. Mais non, je n'ai pas de rite, pas de... non.
Alors, vous avez des projets en cours? Bien, vous parliez tout à l'heure qu'il y avait... vous peignez sur le 8e?
Oui, parce que, bon, je suis quand même... je crois que fondamentalement, je suis quand même assez râleur, quoi. Alors, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « In coda venenum », pour les non-latinistes, c'est « Dans la queue, le venin ». Et c'est une forme d'écriture qui existe au Moyen-Âge, que Voltaire a remis en exergue un petit peu, en écrivant des choses du style « L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Et que croyez-vous qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui creva. » Voilà. Donc, j'ai écrit un bouquin dans ce style-là pour y mettre un petit peu tous mes désappointements de ma vie, de ma carrière de travailleur social, mais en même temps avec de l'humour et du sourire, hein, parce que sinon...
Oui, bien sûr. Hein,
et puis depuis, tant de choses se sont passées et tant de choses sont arrivées que je me suis dit, il lui faut une suite à ce bouquin. Donc voilà, bon, je suis un peu dedans.
Oui.
Voilà. Et puis le neuvième qui pousse un peu derrière aussi, en fait, sera... là, peut-être moins amusant, moins rigolo, en tout cas, plus réel, puisqu'en fait, je vais essayer, sous le titre « Il fallait oser », de raconter comment, avec 59 autres personnes, j'ai ouvert et fait fonctionner pour la première fois ici dans la région une maison d'accueil spécialisée. Et c'était une sacrée aventure.
Spécialisée en quoi, alors ?
Une maison d'accueil spécialisée, c'est un établissement qui accueille des adultes gravement handicapés.
D'accord. Oui. Non, mais c'était pour
nous. Dont certains, de toute leur vie, n'ont jamais rien connu d'autre horizon que le plafond de leur chambre. Ils ont vécu sur un lit plat, d'autres en fauteuil roulant. Donc des potentialités très, très limitées et des handicaps que j'ai aussi découverts à ce moment-là, dont la diversité peut être un peu effrayante. Mais on a osé. On a osé à 60. On a osé essayer de leur donner une vie. Une vie proche de la nôtre, parce qu'on ne parlait pas d'inclusion à l'époque, on ne parlait pas de je ne sais pas quoi. Mais on remontait les manches et on disait on va essayer, en tout cas, on va le faire.
Donc vous allez raconter cette épopée dans le 9e, c'est ça.
Oui. Aussi en mémoire de tous ceux qui y ont participé, que ce soit l'association, j'ai pas honte, hein, c'est l'AIM à Nancy qui a lancé, que ce soit l'association, que ce soit tous ces gens qui, comme moi, se sont trouvés face à un projet qui n'en était qu'un, parce que entre le projet et la réalité, il y avait un monde. Mais ce monde-là, on l'a affronté. Voilà.
Et le 10e, alors ?
Ah, le 10e, c'est loin encore.
Ah oui.
C'est loin encore, le 10e. C'est plus... j'ai rencontré des personnes qui, au départ de leur vie, étaient pleines de talents, pleines de richesses, pleines de possibilités. Et ces personnes-là... se sont trouvés croisés le destin et ont uni la plupart du temps leur destin à une autre personne qui n'a eu d'autre effet que de les détruire ou de les empêcher d'être ce qu'elles auraient pu être. Et donc ce bouquin, je lui ai déjà au moins trouvé son titre, ça sera « Les chrysalides profanées ». Parce qu'effectivement, des chrysalides ne sont jamais sortis les papillons qu'on en attendait.
Ah oui. Oui, c'est dommage. Mais c'est vrai que votre écriture, vous mélangez l'espoir et puis un peu le... Pas désespoir,
ça la nostalgie.
La nostalgie, voilà, c'est ça.
Oh non, pas le désespoir.
Oui, c'est ça, c'est pour ça que je cherchais.
Mais la nostalgie, oui, je veux bien. Oui, bien sûr. Oui. Mais en même temps, il faut se dire que oui, demain peut être meilleur. Hein, et
bien
sinon,
sûr. Oui, c'est pas la peine de se lever le matin.
Non, pas du tout.
Eh bien, merci à Jean-François Costa d'être venu nous présenter trois de ses ouvrages. Alors, Sous le chêne de Velléda, 13 rue du Point du Jour et À l'ombre de Saint-Èvre. Tous les trois sont publiés aux éditions du Panthéon. Alors merci à Laura qui était à la technique aujourd'hui. Et nous allons nous quitter avec Zaz et Serge Lama qui nous chantent l'accordéoniste. Au revoir à tous, à bientôt.
De joie est belle au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg.
Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux. Et les doigts s'équellent en l'artiste.
Ça lui rentre dans la peau, par le bas, par le haut. Elle a envie de chanter, c'est physique.
Tout son être est
tendu, son souffle est suspendu.
La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas. Son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils se prendront une maison. Elle sera la caissière et lui, il sera le patron.